Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Je chante, Seigneur. Je te loue, ô Dieu. J'ai tant de raisons de te chanter, de te louer. Tu as tant fait pour moi. Ta patience envers moi a été salut. Seigneur mon Dieu, je chante et je te loue, car à travers cette année qui a passé, j'ai vu ta main combien de fois. Malgré, Seigneur, mon infidélité, malgré ma faiblesse, tu ne m'as pas laissé. Loin de là, tu t'es approché de moi. Tu m'as parlé, ô mon Dieu, et tu m'as fait connaître le chemin que je dois suivre. Ô Père, c'est à cause de ton amour que je suis ici encore. Je te chante, ô Dieu, parce que en toi j'ai trouvé la réconciliation et la force pour continuer la route, malgré les problèmes, les difficultés, malgré le rejet ou les critiques, malgré, Seigneur, ô mon Dieu, les tentations dans lesquelles je suis tombé. Mais Seigneur, chaque fois j'ai pleuré devant toi. J'ai pleuré devant toi et tu as pris ma main et tu as conduit mes pas. Seigneur, je ne veux pas te laisser. Je veux marcher avec toi la main dans la main. Car je sais que tu me conduis vers les parvis éternels. Tu me conduis dans cette résidence merveilleuse que tu as préparée pour moi. Mais en attendant, Seigneur, si tu nous retiens encore sur cette terre, c'est parce qu'il y a une tâche à accomplir. Tu veux, Seigneur, que nous apportions la bonne nouvelle du salut à ce monde qui périt loin de toi. Tu veux, Seigneur mon Dieu, ô Jésus, que nous leur fassions connaître les voies de l'éternité, car c'est notre tâche à chacun d'entre nous. Merci pour le privilège, Seigneur, de te connaître et de pouvoir t'apporter, parler de toi, amener les hommes à la connaissance de Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés. Merci, merci. Tel est notre travail, telle est notre tâche à chacun de nous aujourd'hui, dans cette dernière moisson. Cette dernière moisson qui a à peine commencé. Je crois certainement, sincèrement, qu'elle a commencé. Mais encore, ce n'est qu'une petite action qui est en route maintenant. Nous croyons que quelque chose de bien plus grand et de bien plus évident et manifeste sera donné. Donné. Non, les ténèbres n'auront pas le dessus. Les ténèbres ne vont pas régner toujours sur la terre. Non, non, la gloire de Dieu veut se manifester. Il semble que les puissances des ténèbres, les puissances occultes avancent de plus en plus dans notre monde, dans notre pays. Et les conséquences se voient lorsque les hommes se détournent de Dieu pour adorer les faux dieux, pour servir les faux dieux dans des manipulations occultes, des ténèbres avec les puissances de Satan. Ils appellent la malédiction sur eux et la destruction. Et c'est la raison pour laquelle dans notre pays, nous n'arriverons pas à sortir de ce marasme à tous les niveaux à cause des manipulations occultes qui se font à tous les niveaux, depuis les plus hauts degrés de l'État jusqu'au plus petit de notre nation. Ô mon Jésus, mais les ténèbres ne vont pas régner toujours sur la terre. Et ce qu'il veut, c'est délivrer les hommes du joug des ténèbres et des puissances occultes, ces puissances que beaucoup trop parmi nous, parmi notre nation, servent et adorent. Ces puissances n'auront pas le dessus. Elles ne peuvent avoir le dessus. Non, car dans ce pays même, Dieu a une multiplicité d'hommes et de femmes qui doivent encore rentrer dans le royaume des cieux. Mais ils ne peuvent rentrer dans le royaume des cieux que si le message leur est apporté. Ils ne peuvent rentrer dans le royaume des cieux que si ce qu'il faut faire soit fait. Et nous avons une mission à accomplir dans cette dernière moisson. Oh, nous savons que Dieu ne regarde pas au nombre et qu'un homme avec Dieu, c'est une majorité. Mais gloire à Dieu, il y a plus qu'un homme fidèle dans ce pays. Et Dieu va mettre son esprit sur chacun de ses fidèles. Et quand je parle de ses fidèles, il ne s'agit pas seulement des prédicateurs qui annoncent cet évangile en toute vérité, en toute intégrité et en toute droiture. Mais je veux parler de tous les fidèles qui sont dans les rangs, les fidèles qui sont assis sur les bancs dans les églises, mais qui sont fidèles, car la tâche est à eux, à chacun d'eux, non seulement aux prédicateurs, mais à chacun de ceux qui ont reçu cet esprit de la Pentecôte en eux, cet esprit de puissance et d'autorité, qui ont reçu cet esprit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà. Et cet esprit descend, non pas seulement sur une certaine catégorie d'hommes ou de femmes, mais sur tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont sauvés par grâce. Il veut déverser son esprit afin de les équiper pour la dernière moisson, pour la tâche qui est devant eux, la tâche qui est devant nous. Nous avons une tâche dans cette dernière moisson. L'Évangile doit être annoncé, l'Évangile doit être prêché. Il y a l'Évangile qui est prêché sans la parole, c'est-à-dire la parole qui sort de notre bouche. Il y a un évangile qui est prêché sans l'expression de la parole, mais qui est une démonstration de la parole, qui est une démonstration de la parole. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir se tenir devant un auditoire et de devoir faire un discours basé sur la parole de Dieu, pour exposer cette parole, pour la faire connaître, pour appeler les hommes à la réflexion et à la repentance. Non, tout le monde n'a pas cette habilité qui est donnée par Dieu et par lui seul, car il ne s'agit pas d'une habilité qui vient de l'intelligence et du savoir humain naturel, mais il s'agit là de capacités données par Dieu, d'une habilité qui est donnée par Dieu surnaturelle. Que Dieu nous donne des prédicateurs surnaturels, surnaturels qui diront les paroles de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est ce dont nous avons besoin plus que jamais. Mais, ce n'est pas seulement ceux-là qui annoncent l'Évangile. Non, il y a combien d'hommes et de femmes qui certes n'ont pas la capacité de pouvoir faire des discours, de pouvoir dire des paroles avec des mots bien prononcés et sachant sortir des pensées pour les exprimer, les communiquer aux autres. Mais il y a aussi cette élite, car c'est une élite d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit qui donne une démonstration de la parole, une démonstration de la parole vécue, une démonstration de la parole vécue. La parole vécue est un message puissant. La parole vécue est un message puissant. Et je prie Dieu que son esprit repose sur chaque membre de son Église, rempli du Saint-Esprit, qui vive la parole et qui part. Leur comportement, par leur façon d'être, leur façon de se comporter au milieu du monde, sont eux-mêmes une prédication, sont eux-mêmes une lettre ouverte, sont eux-mêmes une influence au milieu de ce monde ténébreux, sont eux-mêmes une lumière parce qu'ils ne se plient pas à toutes les exigences du monde qui les entoure, de ce monde plein de péchés, de ce monde plein d'occultisme, de ce monde plein de corruption, de ce monde plein de mensonges. Non, eux, ils ne vivent pas selon le monde, mais ils vivent selon la parole qui a été implantée dans leur cœur. Ils vivent selon la parole, et leur vie est une parole puissante, là au bureau, là dans un bureau de l'État, là dans les responsabilités politiques, élevé, là peut-être dans la boutique, là peut-être comme chauffeur de taxi, là peut-être dans une entreprise quelconque. Leur vie est un témoignage à leur entourage. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la parole qui est en eux s'exprime à travers leurs actions, s'exprime à travers leur comportement, s'exprime à travers leur façon de vivre. Là, quand ils sont sur les bancs de l'école, qu'ils soient à l'université, dans les écoles supérieures ou dans les petites écoles, peu importe, croyez-moi, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des prédicateurs, peut-être pas avec une parole particulière, mais par une démonstration de vie transformée. Et c'est ça que nous devons comprendre. Ceux qui doivent faire le travail, ce n'est pas ceux qui se tiennent derrière l'estrade en prononçant des discours, mais c'est chaque membre de l'Église. Le Saint-Esprit a été donné et déversé sur chaque enfant de Dieu. Vous recevrez de la puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà ce qu'a dit Jésus. Il a dit ça aux 120 qui étaient dans la chambre haute. Dans cette chambre haute, il n'y avait pas que les disciples de Jésus, mais il y avait d'autres personnes, des femmes, des hommes du commun, des femmes du commun, de la vie de tous les jours, non pas avec des capacités particulières, mais Jésus les a remplis du Saint-Esprit, afin que chacun d'eux, devienne des prédicateurs par la vie, par le comportement de chaque jour, dans le foyer, dans la boutique, au bureau, sur la route, où qu'ils soient, dans les avions peut-être. Aujourd'hui, tel est notre mode de vie, mais partout nous devons être des témoins de Jésus-Christ, et notre vie doit être un exemple. Nous ne sommes pas influencés par la façon de vivre du monde qui nous entoure. Nous ne voulons pas faire ce qu'ils font, parler comme ils parlent. Non, pas du tout. Nous sommes différents. Nous allons peut-être pas dire grand-chose. Eh bien, des fois, nos paroles de la bouche sont mal reçues par les autres qui ne veulent pas entendre ces discours qu'ils disent être religieux. D'accord, je vais fermer ma bouche, mais ma vie, tu ne peux pas l'empêcher de la vivre telle que je dois la vivre pour la gloire de Dieu. Et cette vie va parler plus fort jusqu'au jour où tu viendras me dire, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es différent. Gloire à Dieu, je veux être différent. Et je veux être différent afin de faire envie aux hommes et des femmes et aux femmes qui vivent dans les ténèbres, qui vivent dans le déséquilibre spirituel, le déséquilibre moral, le déséquilibre sur tous les plans et qui sont malheureux. Ils prennent mal votre témoignage par la bouche. Ils prennent mal votre parole. Peu importe, vivez Jésus. Et ça, c'est un grand message. À l'école, vous n'êtes pas des tricheurs. À l'école, vous étudiez et vous travaillez avec discipline. Voilà, vous n'êtes pas des tricheurs. Oh, combien je suis triste lorsque j'entends des élèves, des étudiants dans nos écoles bibliques, quand il y a des examens qui sont des tricheurs. Croyez-moi, moi je les mettrai dehors immédiatement. Vous êtes indignes d'être des prédicateurs de l'Évangile. Vous voulez tricher? Eh bien partez, allez tricher dans le monde, mais on ne triche pas dans l'Église de Jésus-Christ à quelque niveau que ce soit. On ne triche pas, on vit une vraie vie qui est un exemple pour les autres, car les autres nous regardent. Croyez-moi, les autres nous regardent. Ils regardent nos réactions, ils entendent nos paroles, ils regardent comment nous nous comportons. Ils ne sont pas indifférents, à plus forte raison quand ils apprennent que nous sommes des chrétiens et peut-être même des prédicateurs. Ils nous regardent plus que les autres, et tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons fait l'objet d'une interprétation automatique. Et bien des fois, nous ne sommes pas sages. Ce n'est pas que nous soyons tombés dans le péché, mais nous avons un comportement qui n'est pas sage et qui est prêt à des interprétations de la part des autres qui ne consistent pas à glorifier Dieu. Non, mais plutôt à critiquer le nom du Seigneur. Frères et sœurs, Demandons au Seigneur qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous donne la sagesse du comportement, la sagesse de la parole, la sagesse dans tout ce que nous faisons, afin de pouvoir influencer les autres. Influencer les autres. Dieu a besoin de chaque membre de son Église. Il n'y en a pas un qui doit rester à part, s'occuper seulement de ses petites affaires à lui et venir simplement le dimanche pour écouter la parole. Non, non, chacun d'entre nous, nous devons être des membres du corps de Christ actifs, actifs. Et je vous poserai une question. Avez-vous amené une âme, une seule âme à Jésus pendant cette année qui a passé? Avez-vous amené une seule âme à Jésus pendant cette année qui est en train de passer? C'est une chose importante. Amener une âme à Christ, c'est-à-dire lui rendre témoignage, prier pour elle, combattre sur les genoux jusqu'à ce qu'elle cède à Jésus-Christ le Seigneur et l'amener à l'Église. Et l'amener à l'Église. Si chacun ici amenait une seule âme au Seigneur, il y aurait un double auditoire à ce deuxième culte ce matin. Et il nous faudrait faire encore d'autres cultes pour rassembler tout le monde, trouver une solution. Frères et sœurs, c'est notre tâche en tant qu'Église de Jésus-Christ à être et à devenir des gagneurs d'âmes dans cette dernière moisson. C'est une évangélisation que nous devons faire, oui, avec plusieurs volets, si je puis dire. Une évangélisation par la parole, par la prédication, par le témoignage qui sort de notre bouche, mais aussi une évangélisation sans parole, mais qui est une démonstration de la parole de Dieu qui vit en nous. Et cette évangélisation, souvent, doit se faire et ne peut se faire qu'autrement. Car dans certains milieux où nous allons, on n'acceptera pas ces gens qui parlent de Jésus. Non, et plusieurs d'entre nous, souvent, nous manquons même de sagesse. De sagesse. Nous allons vers quelqu'un, n'importe qui, et on lui dit, est-ce que tu es sauvé? Hein? Et ceci va être mal pris, mal compris. Et puis on va dire toutes sortes de choses qui vont plutôt l'éloigner, le blesser. Demandons à Dieu la sagesse. Comment nous devons nous adresser aux perdus pour les attirer à Jésus-Christ, et d'être nous-mêmes une démonstration de Jésus-Christ dans nos vies. Frères, sœurs, la tâche est immense pour cette nouvelle moisson. Chaque croyant doit être un témoin. Chaque croyant sans exception. Vous connaissez ces paroles qui se trouvent dans l'évangile de Marc au chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Là, ce sont des paroles qui sont bien connues. Il a dit là, « Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira voudra passer par les eaux du baptême, car les eaux du baptême, c'est le témoignage extérieur de ce qui s'est passé à l'intérieur. Et le témoignage comme quoi nous mourons à notre vieille vie et nous nous relevons avec Christ à une vie nouvelle. C'est une identification de l'individu à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Lorsqu'une personne vient à Jésus-Christ, qu'elle a passé par la nouvelle naissance et qui ne veut pas prendre le baptême d'eau, alors là je me pose vraiment la question, a-t-il véritablement compris le baptême d'eau par immersion, celui qu'enseigne la parole de Dieu, l'immersion? Oui, car si on vous laisse sous l'eau, vous mourrez évidemment, inévitablement. Mais quand on vous relève, n'est-ce pas, c'est le symbole de la résurrection avec Christ à une vie nouvelle, identifiée avec lui. Comme dit Paul, une même plante avec lui, dans le baptême, dans sa mort et dans sa résurrection. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce n'est pas que le baptême sauve, mais le baptême est un symbole de la séparation de cette vieille vie avec la nouvelle en Jésus-Christ. Ce qui sauve, c'est la repentance. Et la repentance, c'est la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau, il veut le faire connaître à tout le monde. Son cœur brûle. Son cœur brûle. Et il est prêt même à témoigner publiquement par les eaux du baptême. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Il n'est pas parlé de religion là. Il est parlé de croire ou de ne pas croire. C'est tout. Ça s'arrête là. Jésus n'est pas venu apporter une religion, mais il est venu apporter le salut. Le salut basé sur la parole de Dieu. Ce salut duquel il nous est parlé. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À travers Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui est venu dans le monde. Voilà. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Pourquoi ces signes accompagnent ceux qui auront cru? Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ceux-là, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils sont devenus des témoins. Et des témoins qui apportent des preuves. Des témoins qui apportent des preuves. Voilà pourquoi des signes accompagneront leur témoignage verbal, leur témoignage par la vie transformée, par leur être tout entier, par leur comportement. Voici, le Seigneur dit, parce que vous êtes appelés à être des témoins, au milieu de ce monde, je vais confirmer votre témoignage par des signes, Vous allez parler de Jésus-Christ auprès des pauvres et des malheureux, auprès des malades, où qu'ils soient, et vous leur déclarez ce que la Bible dit. Jésus guérit les malades, et en son nom vous prierez pour eux, et vous verrez des malades être guéris, des miracles se produire, alors que peut-être vous n'êtes même pas des pasteurs ou des prédicateurs. Non, mais vous êtes un témoin. Et cela est suffisant pour que le Seigneur puisse faire des prodiges et des miracles à travers vous parce que vous faites ce qu'il a dit, ce qu'il a commandé. Aujourd'hui, on a l'habitude d'attendre que ce soit seuls les prédicateurs qui se tiennent sur l'estrade, qui prient pour les malades et qu'ils se fassent des miracles. Eh bien, vous avez tort. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croira sera sauvé. Vous avez cru, vous êtes sauvé. Vous avez passé par les eaux du baptême. Vous avez été rempli du Saint-Esprit. Voilà, eh bien, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Frères et sœurs, nous avons besoin d'avancer sur ce chemin de la véritable Pentecôte. Nous avons besoin d'avancer sur cette route de la transformation complète de l'homme qui prend pour mot ce que la Bible dit et qui n'est pas simplement inactif, simplement assistant aux réunions et qui s'en va faire ses affaires dans le monde. Non, où qu'il soit, cet homme est un témoin, cette femme est un témoin. Vous m'entendez, jeunes gens, jeunes filles, imitez la parole de Dieu. N'imitez pas les paresseux. N'imitez pas les tirs au flanc, n'imitez pas les inactifs, mais imitez ceux qui, brûlant pour le zèle de Christ, vont de l'avant. Combien de fois des jeunes gens qui ont trouvé Jésus-Christ avec foi et courage, rendent témoignage, vont de l'avant. Et certaines fois, il arrive que des vieux leur jettent des seaux d'eau froide sur la figure. Autrement dit, ils les découragent. Qui tu crois que tu es? Qu'est-ce que tu sais en réalité? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est le même pour tous. Je sais qu'il a dit à ses disciples que ceux qui croiront, eh bien voici les miracles qui les accompagneront. Frères et sœurs, nous vous demandons pas d'être bizarres. Nous ne vous demandons pas de faire croire que vous avez un pouvoir particulier. Nous ne vous demandons pas d'être des gens qui essayent par un artifice extérieur de montrer que vous êtes des super saints. Non, soyez naturels, mais parlez de Jésus-Christ. Soyez naturels, mais dites aux autres ce que Jésus a fait pour vous. Faites ce qu'il vous demande de faire afin de gagner le combat. Afin de gagner les âmes à Jésus-Christ. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai cru, ces signes doivent m'accompagner. Tu as cru, ces signes doivent t'accompagner. Chacun d'entre vous, vous avez cru, ces signes doivent vous accompagner. N'attendez pas que ces signes accompagnent seulement quelques-uns. Non, nous tous, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Et avec cet esprit que nous avons reçu, nous allons de l'avant pour porter le message de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ah oui, ce n'est pas au nom de la Pentecôte, ce n'est pas au nom de l'Église de la Borne, ce n'est pas au nom d'un prédicateur, non, au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Nous sommes ses esclaves. En son nom, vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues, vous saisirez des serpents. Saisir des serpents, ce n'est pas seulement prendre des serpents avec les mains, et puis comme Paul ce jour-là, n'est-ce pas, qui a pris des branchages, qu'il a jeté dans ce feu, sur cette île déserte où il faisait froid. Ils venaient de passer à travers un naufrage et il y avait un serpent dans ses branchages. Et puis les païens qui étaient là autour ont dit « Oh voilà, les dieux l'ont puni, c'est sûrement un homme de mal, il va mourir dans quelques instants. » Mais non, il n'est pas mort. Il ne s'agit pas seulement de ce serpent-là, hein, mais il s'agit des serpents qui roulent, qui sont en train de ramper dans nos rangs. Les serpents qui sont en train d'empoisonner celui-ci et celui-là par des paroles méchantes, par toutes sortes d'insinuations destructives, par un esprit de division. Ces serpents-là, ils ne peuvent vous faire du mal, croyez-moi. Quoi qu'ils fassent et quoi que soit leur venin, ils ne peuvent vous faire du mal parce que vous êtes des enfants de Dieu et que vous marchez dans la vérité et que l'Esprit de Dieu est en vous. Leur venin ne peut rien vous faire. Il existe une secte aux États-Unis depuis bien longtemps déjà où ils ont des serpents les plus venimeux qui soient, comme le serpent à sonnette, les plus venimeux qui soient, qui mettent dans un panier. Et si tu crois à cette parole, ils disent à leurs gens, mettez votre main dans le panier. Ah. Et si les serpents te meurent et tu es malade, donc tu as du péché. Arrêtons ces stupidités-là. Non, 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 nous ne voulons pas ces histoires-là. Nous ne voulons pas ces histoires-là. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mes frères, nous croyons à la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas des déséquilibrés. Nous marchons dans la lumière et la vérité. Nous ne sommes pas des excentriques. On cherche à se faire voir. Voilà, j'ai guéri. J'ai prié à l'hôpital et voilà, j'ai guéri. Oh là là, quand j'entends les gens dire comme ça, je me dis, tu n'as rien compris. J'ai vu de ces gens-là. Tu n'as rien compris. Tu n'as guéri personne. Tu n'es même pas un médecin. Alors ferme ta bouche. Il y en a un autre qui est au-dessus de toi. Il y en a un autre qui est au-dessus de toi. Et c'est celui-là qui a voulu guérir à travers toi. Mais si tu n'es pas fidèle et tu lui rends pas gloire, eh bien, il ne va plus rien se passer, crois-moi. Parce qu'on ne peut et on ne doit pas voler la gloire qui appartient à Dieu. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Oh, ceci arrive dans notre monde. Combien de fois ceci est arrivé dans notre monde? Ils ont bu des breuvages mortels, ils n'ont rien senti. D'autre part, il y en a d'autres qui ont bu des breuvages mortels, ils ont été très malades, mais ils ne sont pas morts, car Dieu veille. Peut-être qu'il permet que tu passes à travers la difficulté, peut-être à travers l'épreuve, mais ça fait rien. Ta foi ne peut pas être ébranlée tout simplement parce qu'on a voulu te donner du poison. Non, mais tu vas de l'avant, les yeux fixés sur Jésus. Vous savez que notre frère Mavinga, qui est à Kisangani, il était déjà empoisonné 2 fois. Est-ce qu'il est mort? Non. Il continue à prêcher avec beaucoup de courage. Avec beaucoup de courage et avec beaucoup de foi. C'est ce que Dieu cherche! Des témoins! Des témoins qui ne vont pas lâcher au milieu de l'adversité. Des témoins! Des témoins! J'ai entendu des bêtises qui ont été prononcées dans le monde, même par des prédicateurs là-bas aux États-Unis. Il y en a un qui disait publiquement à son auditoire, si l'apôtre Paul avait connu ce que je connais, la foi qui opère des miracles, il n'aurait pas eu son écharde dans la chair. Avons-nous le droit de dire cela? Il y en a d'autres qui disent, oh, les premiers missionnaires qui sont venus, on ne connaissait pas les maladies tropicales, on ne savait pas les soigner, beaucoup sont morts. S'ils avaient eu la foi, ils ne seraient pas morts. Eh bien, ceci, ce sont des insultes envers ces héros de la foi. Ce sont des insultes envers ces héros de la foi. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour juger les autres. Non, mais nous sommes là, nous, pour suivre le Dieu qu'ils ont suivi eux-mêmes jusqu'à la mort. Oui, jusqu'à la mort. Je me souviens d'avoir vu très loin, en pleine brousse, perdu, là, en pleine brousse, pas de route, que des pistes, des tombes de missionnaires tombées. Et là, il y avait encore cet épitaphe, « Les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Alléluia. Voilà l'espérance. L'espérance de celui qui a la vie, l'espérance de celui qui a reçu le pardon de ses péchés. Une espérance merveilleuse. Frères, sœurs, nous ne sommes pas maîtres de nos années. Quand Dieu veut dire, viens, rentre à la maison, nous y rentrons. Et nous sommes heureux, le combat est fini. Ce qui est important, c'est d'achever la course. Ce qui est important, c'est de remporter la victoire avec Jésus-Christ. Et il nous a donné les moyens pour remporter cette victoire. Oui, son esprit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Que Dieu nous aide à ne pas avoir un esprit de jugement envers qui que ce soit, mais à être des hommes et des femmes pleins d'amour. Et s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, mettons ça au pied de la croix et continuons à prêcher le message qui sauve. Merci Jésus, merci Jésus. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est lui qui guérit. Tout ce qu'il me demande de faire, c'est de faire ce qu'il a dit de faire. C'est tout. Ce n'est pas parce que tu pries maintenant pour une personne et qu'elle n'est pas guérie que tu vas t'arrêter de prier pour les personnes qui sont malades. Non, tu vas le faire. Il y en a peut-être 20 qui passent et 20 qui ne sont pas guéris. Mais peut-être qu'il y a la 21e qui se relève guérie complètement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi, Dieu. Dieu, il est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Et peut-être l'autre sera guéri, mais peut-être plus tard. Il y a des choses qu'il doit comprendre. Il y a un chemin à travers lequel il doit passer. Frère, personne ne commande à Dieu quoi que ce soit. Nous demandons, nous ne commandons pas. Dieu est souverain, mais ceci n'empêche pas que notre foi doit rester ferme. Et nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire, avec fidélité, avec droiture, et porter l'évangile. Résultat ou non, résultat, nous continuons. Pendant plus de 100 ans, Noé, il a prêché le message de la repentance. Et combien ont cru en lui? Très peu. Ils étaient 8 seulement à rentrer dans l'arche. Vous voyez, on pourrait dire qu'il avait failli quant à son ministère. Eh bien, moi, je dis non, non. Parce que le monde auquel il a prêché cet évangile a refusé de croire. Et maintenant, le jugement qui tombe sur eux est mérité. Ce n'est pas parce qu'ils ignoraient. Frères et sœurs, souvent nous voulons voir le résultat. Le résultat. Le résultat, oui, je veux le voir, ça m'encourage. Mais peut-être certaines fois, on ne voit pas grand-chose de ce que nous faisons. Et des fois, on est déçu. On est déçu. Laissons cela entre les mains de Dieu et soyons fidèles à ce qu'il nous demande de faire. Le monde qui nous entoure est un monde qui va de plus en plus mal. Il devient de plus en plus matérialiste et tout en rejetant les valeurs spirituelles, il rejette Dieu. Il rejette Dieu. Il y a des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui se réclament de quelque christianisme quelconque, mais qui en réalité ne vivent pas de la vie de Christ. Ils se disent chrétiens, mais vous les voyez vivre comme les gens du monde. Ils n'ont aucune influence par leur vie vis-à-vis des gens du monde. La seule chose qu'ils font, c'est de rentrer dans une église à Noël, à Nouvel An, à Pâques, d'aller à travers un rituel et de vivre une vie n'importe comment dans le monde. Ils n'ont aucune influence. Aucune influence auprès de ceux qui sont perdus. Ce genre de christianisme-là, nous n'en voulons pas. Nous voulons des hommes et des femmes qui vivent leur foi. La proportion de chrétiens réellement nés, de nouveau, transformés, changés dans leur vie, c'est une proportion très faible, malheureusement, en tout cas jusqu'à maintenant. L'Église a-t-elle fait faillite? Voilà une question. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'une religion quelconque, non, mais je parle du corps de Christ. Du corps de Christ, cette Église a-t-elle fait faillite? Une grande partie de la population du monde n'a jamais entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Et pourtant, il y a des siècles que Jésus a dit à ses disciples, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. » Il y a des siècles. Dans tous les pays du monde, le crime augmente. Toute espèce de maux augmente. La moralité va en se dégradant de plus en plus. Il y a une dégradation constante de la moralité. La corruption augmente. Il semble que tous les records sont battus. Et pourtant, on n'a pas fini de voir le pire dans notre société. Les hommes ne veulent pas de Dieu. Ils rejettent Dieu et méprisent ses commandements, méprisent sa parole. Et bien souvent, ceux qui se prétendent chrétiens vivent une vie qui est opposée à la foi. Opposée à la foi. N'oubliez pas que celui qui est un chrétien, quoi qu'il ne soit pas prédicateur, il doit annoncer la parole par la démonstration d'une vie semblable à celle de Jésus-Christ, d'une vie changée, transformée. Beaucoup de ces hommes aujourd'hui dans le monde sont un démenti de leur prétendue foi par leur conduite et façon de vivre. Un démenti. Vous avez des prédicateurs dans le monde aujourd'hui qui prêchent certainement de bons messages bien équilibrés, fondamentaux, basés sur la parole de Dieu, mais dont la vie est un démenti. Des hommes qui ne savent pas tenir leur parole, des hommes qui ne sont pas justes dans leurs décisions et dans leurs choix, des hommes qui favorisent plutôt ceux qui ont de l'argent en cherchant un avantage matériel plutôt que d'accepter le chemin de Christ, le chemin étroit. Un chemin qui, certaines fois, vous met dans une certaine, je dirais, pauvreté. C'est vrai, pauvreté, où vous avez des besoins. Je peux en parler. Après toute cette vie que j'ai passée à servir le Seigneur, il y a des temps et des moments de besoin, je dirais de pauvreté. Mais le Seigneur ne nous dit pas de l'abandonner à ce moment-là. Pourquoi est-ce que nous le servons? Est-ce que cela dépend dans les biens que nous possédons, oui ou non? Est-ce que notre amour pour Christ, pour Dieu, dépend de ce que nous possédons, des choses dans le monde, de la reconnaissance des hommes, de la gloire humaine? Oh, certes, non. Et si nous passons par ce chemin-là, eh bien, notre devoir est de persévérer malgré tout. Parce que la fidélité, je vais employer ce terme, paye. La fidélité paye. Dieu ne va jamais oublier ses fidèles. Oh, certes non. Dieu est un Dieu de miséricorde. Voilà. Et il nous donnera ce qui nous est nécessaire dans notre vie de chaque jour. Combien d'hommes et de femmes et de prédicateurs sont le démenti de leurs propres paroles? Ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils ne font pas ce qu'ils disent. C'est toujours pour les autres. Nous avons dans notre monde aujourd'hui et dans le passé, nous avons eu beaucoup de grands évangélistes, on les appelle les évangélistes internationaux, qui impriment de grandes affiches et pour lesquels on prépare des grandes croisades d'évangélisation avec de gros moyens, des campagnes de masse. Mais ces croisades, ces campagnes de masse ne peuvent porter de fruits durables que si les gens qui sont touchés sont suivis, et trop souvent se contentent de ramasser des masses d'hommes et de femmes, de leur prêcher l'Évangile, de dépenser énormément d'argent, et après on s'en va. Et bien souvent, nous l'avons vu dans notre pays, des campagnes à grande échelle, le résultat permanent est très mince, Il n'est pas en proportion des frais engagés dans ce travail. De toute façon, ces campagnes, à elles seules, ne peuvent répondre aux besoins de la masse de notre monde, aux besoins spirituels de notre temps. Nous devons savoir que nos méthodes ne suffisent pas. En plus des campagnes de masse, nous avons un grand nombre d'évangélistes qui travaillent dans le cadre des églises locales, qui font de gros efforts. Ils organisent des efforts par quartier et ils font leur possible avec leur groupe d'évangélisation. Chaque semaine, chaque mois, que sais-je, suivant le programme qu'ils ont établi, ils organisent des réunions en plein air, distribuant de la littérature, organisant des réunions spéciales pour les enfants, pour les adultes, pour des gens de différentes catégories, pour les jeunes. Mais c'est souvent un petit nombre qui travaille, alors que la masse des chrétiens est inactive. Et c'est ça que nous devons savoir, que la masse des chrétiens est inactive. On a une équipe d'évangélisation qui fait un travail, qui passe beaucoup de temps, qui transpire, qui font tout ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas? Gloire à Dieu pour eux, que le Seigneur les bénisse. Mais la masse des chrétiens est inactive. Jamais ils n'ouvrent la bouche, jamais ils ne rendent témoignage dans leur lieu de travail. Jamais ils sont là à rendre témoignage par leur attitude et leur refus d'entrer dans les magouilles locales, dans les magouilles dans lesquelles on veut les obliger à mettre leur approbation par leur chef. Non, le chef n'a aucun pouvoir sur la moralité personnelle de l'individu. Non, il a du pouvoir sur le travail qu'il doit faire, d'accord, mais un travail honnête qui n'agresse pas la conscience. La conscience. Et vous avez le droit de refuser de faire quelque chose qui détruit et qui agresse votre conscience au détriment de votre prochain. Et vous devez le signifier. Peut-être qu'on sera fâché contre vous, peu importe. Peut-être qu'on vous mettra à la porte, peu importe. Mais votre témoignage va faire quelque chose dans le cœur de ces gens-là. Soit ils se repentent, soit ils amassent pour eux un trésor de colère pour le jour de la colère. Frères et sœurs, nous sommes des passagers sur cette terre et nous devons faire la différence. Tous ces efforts que nous faisons sont bons, mais aussi bons soient-ils, ils ne touchent pas un très grand pourcentage de personnes. Et la grosse masse reste hors d'atteinte. Il n'y en a que peu qui utilisent et mettent en pratique les méthodes du Seigneur Jésus lui-même. Et cette méthode, c'est l'évangélisation par chaque croyant. Par chaque croyant, quel que soit l'âge de cette personne qui a cru, elle a un travail à faire. Chacun d'entre vous, jeunes gens, jeunes filles, vous avez une responsabilité vis-à-vis de cette génération, dans l'école où vous êtes, à l'université, où que ce soit, dans un travail peut-être, gloire à Dieu pour ce travail que vous avez pu avoir, mais vous avez une tâche, et que ceci repose sur votre conscience, à chaque instant, à chaque heure, être un témoin de Jésus-Christ, vous écarter des corruptions du monde, des sollicitations sales de ce monde, des langages dégradants de ce monde. À vous de vous en écarter, à vous de faire la différence, quelle que soit la moquerie du monde, vous jeunes gens, mais vous aussi plus âgés, Montrez l'exemple. Soyez un exemple pour ces jeunes. Ces jeunes, bien souvent, ont besoin d'un exemple. D'un exemple par quelqu'un, qui leur est donné par quelqu'un qui est peut-être plus âgé qu'eux, mais qui devient un mentor, comme on dit, qui devient un exemple. Un exemple. Et donnez envie à ces jeunes gens de vous imiter, parce que vous avez parcouru un chemin long, un chemin de combat, de lutte, mais vous avez vaincu par Jésus-Christ le Seigneur. Votre foi a été fortifiée dans ce chemin et votre action est bien plus réelle qu'elle n'a été autrefois. Vous avez un certain rayonnement. Les années ont passé pour vous. Eh bien, que ces jeunes qui vous suivent puissent vous prendre comme modèle et dire « Je veux être comme lui, parce que lui, il est comme Jésus. » Alléluia. C'est ça que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous. L'évangélisation par chaque croyant. Nous sommes fatigués des litanies, des choses automatiques, des récitations automatiques, des prières lues et automatiques. Nous sommes fatigués de ces choses-là. Nous voulons quelque chose qui sorte du cœur et qui est l'expression de l'expérience personnelle. La plénitude du Saint-Esprit sur chaque croyant n'a pas d'autre but que de faire de chacun un gagneur d'âme. Il a dit lui-même, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Oh, que Dieu nous donne d'être ses témoins. Le christianisme, on peut dire, jusqu'à une certaine mesure, a fait faillite parce qu'il n'a pas obéi aux instructions de Christ. Mais Christ n'a pas fait faillite. Il est fort et plus que vainqueur. Suivez Christ. Suivez Christ, non pas une religion quelconque ou un système religieux quelconque, mais la personne de Jésus-Christ. Là est le secret. Le secret de la victoire est le secret de la réussite dans la dernière moisson dans laquelle le Seigneur veut utiliser chaque individu, pas seulement des spécialistes entre guillemets, mais chaque individu, car nous avons été rendus capables par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Dans sa miséricorde, il va encore secouer l'Église et dans ces temps derniers, il va lancer une offensive sans précédent contre les puissances sataniques qui envahissent ce monde, contre les puissances de mensonges, les puissances de l'occultisme à tous les niveaux qui cherchent à détruire notre société. Les méthodes du Seigneur sont des méthodes de succès. Le plan de Dieu pour le salut des perdus a été conçu pour le succès, et non pas pour la faillite. L'Église du Nouveau Testament croissait et se multipliait. Ce n'était pas une Église stagnante, mais c'était une Église de laquelle coulait un fleuve d'eau vive. Un fleuve d'eau vive. Jésus disait à la femme samaritaine, « Si tu bois de cette eau-ci, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu deviendras une source jaillissante, jusqu'en vie éternelle. » Jaillissante, pas de l'eau stagnante, mais de l'eau sous pression. L'eau qui jaillit, c'est de l'eau sous pression. Devenez des sources d'eau jaillissantes jusqu'en vie éternelle. Il est dit dans Actes 2, 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comment pouvait-il ajouter chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés? À travers le témoignage de ceux qui étaient remplis de l'Esprit. Voilà. Ce n'étaient pas des anges qui sont descendus pour prêcher ce message. Ce n'est pas des êtres célestes qui sont venus. Non. Ce sont des hommes et des femmes qui ont passé par la croix, par la repentance, qui ont été remplis du Saint-Esprit. Je suis fatigué de ces chrétiens qui sont chrétiens et qui sont inactifs, et qui vivent dans la magouille, dans le désordre, qui sont infidèles à leur mari, à leur femme, qui sont infidèles dans leur gérance, où que ce soit. Dieu n'a pas besoin de cela, et Dieu ne peut pas les utiliser, ni les employer. « Soyez saints, car je suis saint », a-t-il dit. Dans Actes 5, 14, nous lisons encore, « Les multitudes d'hommes et de femmes » qui croyaient au Sauveur augmentait toujours plus des multitudes d'hommes et de femmes. Voilà ce que Dieu veut faire. Il a fait ça dans les premiers jours de l'Église, il le fera dans les derniers jours. Dans les derniers jours, augmentait de plus en plus. Actes 6, 7, la parole de Dieu se répandait. La parole de Dieu se répandait. Comment est-ce qu'elle se répandait, cette parole? Elle se répandait par la parole prêchée, par le témoignage, elle se répandait par la démonstration de la parole vécue. Vécue. Voilà. C'est ainsi que la parole de Dieu se répandait. Le nombre des disciples se multipliait. Pourquoi? Par la parole. Le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Oui, les religieux, mais les religieux endormis, les religieux traditionnalistes, les religieux qui ont perdu la vision. Ils doivent être réveillés. Combien de pasteurs dans notre société doivent être réveillés? Réveillés! Ô Seigneur, aide-nous. Dans Actes 19, 20, c'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement, avec efficacité. Pourquoi? Parce que ceux qui répandaient cette parole vivaient cette parole. Elle devenait effective, elle devenait opérante, elle devenait puissante parce qu'elle sortait de la bouche et des actions d'hommes qui avaient passé par la croix, des enfants de Dieu. Voilà la source de la bénédiction dans la parole annoncée. Que Dieu nous aide. Remarquons les expressions utilisées dans ces versets. Ajoutait chaque jour, croissait en puissance et force, s'augmentait de plus en plus, se répandait, augmentait beaucoup, de grandes foules. Que Dieu nous aide. Nous voulons voir cela ici aussi. Quelle est la base de cette croissance remarquable? Il y avait une croissance remarquable, la base. Nous en avons déjà parlé quelque peu. Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. C'est le témoignage rempli du Saint-Esprit des croyants. Le témoignage rempli du Saint-Esprit des croyants. Des croyants par l'évangélisation, par la parole, mais par l'évangélisation sans la parole, mais par la démonstration de la parole vécue. Voilà. Le témoignage rempli du Saint-Esprit des croyants, leur comportement, leur attitude, leur style de vie, leurs paroles sont autant de témoignages qui touchent et attirent les autres. Ils proclament la mort du Sauveur, la mort expiatoire, et ils proclament la résurrection triomphale du Seigneur Jésus. Le message des premiers chrétiens comportait toujours le message de la résurrection, un message fort, un message qui n'est pas compris par le monde et le monde naturel. Mais nous ne sommes pas dans le naturel, nous sommes au niveau du surnaturel. La résurrection triomphale du Seigneur Jésus, attestée et confirmée par les miracles en son nom, accomplis à travers son nom. Christ est ressuscité et il est le Seigneur de tout Seigneur. C'est pour cela que nous voyons que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous avertit de plusieurs façons. Quelques versets au chapitre 2 des Romains. Il est dit là, « Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Aujourd'hui, nous avons beaucoup de ceux qui prétendent connaître Christ. Ils le connaissent, disent-ils, ils en ont la connaissance, et ils jugent les autres selon leur comportement et leur façon de vivre. Mais en réalité, toi qui juges les autres, tu fais ce qu'ils font. Tu fais ce qu'ils font. Et tes paroles te jugeront toi-même. Souviens-toi de cela. Et au verset 13, « Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi ou la parole de Dieu, qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent cette parole, ils seront justifiés. C'est la Bible qui dit ça. Ils seront justifiés. Beaucoup sont des auditeurs de la parole, mais ils ne mettent pas cette parole en pratique. Celui qui est un auditeur de cette parole et ne la met pas en pratique, il s'amasse sur lui un jugement terrible. Et au verset 21, toujours de ce même chapitre, il y a beaucoup de détails dans ce chapitre. Nous les passons, lisez-le pour vous-même. Au verset 21, « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as horreur des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » C'est ce que nous dit Paul, et ceci est une vérité. Si le monde païen se moque des chrétiens, c'est justement à cause de cela. Vous prétendez que il ne faut pas voler, mais que faites-vous vous-même à votre propre niveau? Nous le savons, nous le savons. Vous allez vous excuser en disant, « Oh, il faut bien profiter. Pourquoi il faut bien profiter ?» Dieu ne peut pas, ne peut pas, ne peut pas pourvoir à vos besoins sans profiter du vol, de la tricherie, du manque de droiture et de transparence. Tu donc, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Peut-être que tu ne vas pas prendre la femme d'un autre, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton imagination? Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, l'adultère, ça ne commence pas au moment où on couche avec une femme qui n'est pas la sienne. Non, ça commence au niveau de la pensée. C'est là où le péché commence. Frères et sœurs, toutes nos actions sont le fruit de nos pensées. Souvenons-nous de cela. Et trop souvent, le péché est déjà consommé au niveau de notre pensée et de notre esprit. Si nous sommes assaillis par de telles choses, jetons-nous au pied de la croix. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mon cœur. Je veux te glorifier. Seigneur, personne ne connaît, personne ne sait, mais toi, tu sais toutes choses. Et devant toi, je m'humilie. Seigneur, toi qui as horreur des idoles, tu commets des sacrilèges, tu prêches contre les idoles, mais tu fais des choses tes propres idoles. Tu fais de l'argent ton idole, tu places cela avant Dieu. Ton profit personnel, c'est une idole. Tu jettes de côté ta foi pour faire tout ce que le monde voudrait faire, pour avoir un avancement illicite dans tel domaine ou tel autre domaine. Donc, tu en as fait une idole. Oh, je vous en supplie, mes frères, soyons des témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Qui donc? Vous tous qui avez cru, vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur vous appelle à être des témoins. Et si vous êtes un témoin tel que le Seigneur veut que vous soyez, croyez-moi, le Seigneur se tiendra à votre côté. Il y aura des tentations, il y aura des souffrances, il y aura des rejets, il y aura des moqueries. Mais peu importe, alors que vous avancez et que vous prenez des coups dans le combat, vous deviendrez de plus en plus fort, parce que le Dieu fort est avec vous et il fortifie ses fidèles. Baissons la tête. Je sais, Seigneur, je sais que j'ai prononcé un flot de paroles. Qu'y a-t-il de valable dans ce flot de paroles? Je te prie, Seigneur mon Dieu, que ce qui est valable reste dans le cœur de chacun. Ô mon Dieu, tu as voulu que l'Évangile soit prêché par la parole. Par la parole, que tes serviteurs, Seigneur, annoncent cette parole. Mais je suis conscient, Seigneur, que mon discours est insuffisant. Il faut l'action du Saint-Esprit. Il faut l'action de l'Esprit de Dieu. Ô Jésus, Jésus, je m'humilie devant toi. Seigneur, ce que je veux, c'est que ton nom soit glorifié. Ce que je désire, c'est que ton nom soit glorifié. Et que chacun de nous, Seigneur, nous soyons des témoins, de vrais témoins de Jésus-Christ au milieu de ce monde. Je te prie de toucher chacun de ces jeunes gens, de ces jeunes filles. Ô Jésus, ils ont décidé de mettre ces quelques jours à part pour se réunir et parler de toi. Je te prie de les fortifier plus que jamais et que, Seigneur, chacun d'eux devienne des flammes de feu pour toi afin de porter le message de la lumière partout où ils passent, pas seulement par leurs paroles, mais aussi par leur comportement. Seigneur, par un message non exprimé, mais un message vécu, vécu par l'exemple. Ô Jésus, nous sommes là devant toi et nous avons tellement, tellement besoin de toi. Le temps est court, tu viens bientôt. Veuille sanctifier ces offrandes et ces dîmes que nous allons te présenter maintenant. Seigneur, Seigneur, bénis ceux qui veulent participer de cette façon à la proclamation de l'Évangile. Mais il est vrai, Seigneur, que cet argent que nous donnons pour aider à la proclamation de l'Évangile n'est pas un substitut au témoignage que nous devons apporter. Aide-nous, Seigneur, à faire le tout, à donner, mais aussi à parler et à vivre. Que ton nom soit glorifié.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.